Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce numéro 850 d'Invino depuis la création de l'émission en 2004. Comme vous le savez, nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris, au 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio au hasard à Perpignan. Tiens, voilà, ville européenne du vin en 2019 sur 103.2 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui, un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable, avec les grandes questions, avec le goût du vin bio. Est-ce qu'il est différent des autres vins? On aura la réponse tout à l'heure. Les Ranciaux, de l'obscurité à la lumière, avec un grand point d'interrogation. Le Château Chalon, nous partirons dans le Jura. Devinez le quiz pour gagner un très beau cadeau en jouant sur invinoradio.fr. À mes côtés, Florence Corbalan. Bonjour Florence.
Bonjour.
Jean-Manuel Simon, Philippe Forbrac et David Cobol. Bonjour à tous les trois également, trois
bonjour.
Messieurs.
Quoi. Bonjour.
Alors, pour
bonjour.
Commencer cette émission, on va commencer par accueillir Margot Sol, vigneronne dans une belle région. Bonjour Margot.
Bonjour.
Vous êtes où, Margot?
Alors nous, on est à Elne.
À Elne, à combien de kilomètres de Perpignan?
Alors on est entre Perpignan et Collioure, donc on est à 10 kilomètres de Perpignan.
Bon, votre domaine s'appelle le domaine Sol Perret, c'est ça?
C'est ça.
Bon, alors c'est un vignoble depuis longtemps, bon, c'est récent, c'est quoi?
Ouf, nous on est là depuis 1913, donc on est la cinquième génération avec mon frère à travailler sur le domaine.
Florence.
Oui, c'est pas du sang qui coule dans vos veines, hein, c'est du vin en fait. Alors qui s'occupe du domaine aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, on travaille donc tous les quatre avec donc mes parents, mon frère et moi, et on a toute notre équipe aussi qui nous accompagne. Voilà, on est en famille, donc ça fait maintenant 5 ans qu'on est tous les quatre réunis.
Et il y a une véritable singularité, hein, racontez-nous.
Oui. Alors après, on est tous très très complémentaires, c'est-à-dire que vous allez avoir mon frère et mon père qui travaillent ensemble sur la partie production, et avec ma mère, on s'occupe de tout le reste, donc la commercialisation, la communication, voilà, les dégustations au caveau.
Et la particularité du domaine, c'est que vous donc avez après, deux terroirs, comme vous dites.
Voilà. Donc on a deux terroirs bien distincts, donc dans le Roussillon, un dans les Aspres, donc on est à Elne sur au berceau du domaine. Donc on a une quarantaine d'hectares sur Elne, et ensuite on a une vingtaine d'hectares dans le nord du département, dans la vallée de la Glie, à Maury.
Donc à chaque voilà. fois un sol et un sous-sol différent. Qu'est-ce que ça apporte au niveau des vins?
On a des vins qui sont du coup complètement différents, ça nous permet d'avoir une gamme un petit peu plus large. Et on a donc des vins sur le terroir de Maury qui vont avoir un petit peu plus de fraîcheur, de finesse, de minéralité surtout, parce qu'on est sur des sols beaucoup plus rocailleux, donc de schiste, de granit, alors que dans la plaine, on est plus sur des sols argilo-calcaires, voilà. Donc avec des vins très charnus, très complexes.
Et c'est un domaine de combien d'hectares en fait?
Donc en tout, on a 60 hectares.
Ah quand même. Combien de bouteilles chaque année donc au total, Marco?
40 plus 20, ça fait 60, hein, c'est normal.
Bon, vous, monsieur minéral, taisez-vous.
Non, la minérale, non, je passe là-dessus.
Bon. Aujourd'hui, il est gentil avec vous, Marco. Au total, combien de bouteilles?
200 000 à peu près.
Ouais, il faut les vendre.
Et vous travaillez quel cépage?
Ouais. Donc on travaille donc, en rouge, on va retrouver Syrah, Grenache, Carignan, Mourvèdre. Et après, en blanc, on va retrouver le grenache blanc, le grenache gris, un petit peu de muscat également, voilà, le macabeu, qui sont des cépages quand même assez ancrés dans la région.
Jean-Emmanuel, vous aimez les vins de cette région?
Énormément.
Oui, vous connaissez le domaine dont on parle actuellement?
Tout à fait.
Bon, elle est sympa, Margot?
Je ne l'ai pas rencontrée, mais je connais ses vins.
Est-ce que vous faites des vins doux naturels?
Bien sûr. Alors, on est obligé de faire des vins doux naturels en Roussillon.
Oui, justement, j'allais vous demander quelles sont les appellations.
Alors, en vin doux naturel, on travaille bien sûr le muscat de Rivesaltes, donc en blanc. Et en rouge, on va travailler donc un Rivesaltes Grenat et un Rivesaltes Ordage. Donc, la petite particularité, c'est que le Grenat est beaucoup plus jeune. On le sort de suite après la vendange. Il n'y a pas d'élevage, alors que le Rivesaltes Ordage va être, lui, élevé dans des barriques à l'extérieur pendant plusieurs années. C'est complètement différent.
Et au niveau des actualités, donc vous avez fait une conversion en bio en 2018. Mais ce qui est important cette année, c'est que vous avez lancé un nouveau concept œnotouristique. Racontez-nous.
Alors oui, effectivement, ça c'est un petit peu le projet depuis quelques années sur le domaine. On cherche en fait à proposer une autre formule en fait à nos visiteurs. Et donc ça fait plusieurs temps qu'on y réfléchit. Et du coup là, on cherche à faire un repas le midi convivial, chaleureux, avec donc dégustation de nos vins. Le but c'était vraiment de mettre les vins en avant. Donc on propose tous les midis
avec quoi, grillades, escargots, tout ça.
Voilà, sous forme de tapas.
Ah, une petite cargolade. C'est bon, ça. Voilà. Bon, dites-nous, là, il y a un élément important quand on sert des belles bouteilles comme chez vous. C'est le bouchage. Vous travaillez avec qui pour le bouchage? Comment vous êtes organisé?
Donc, nous travaillons avec la société Diam, qui est donc voisine de notre région. Et donc, on travaille avec ces bouchons Diam qui, pour nous, sont exceptionnels parce que on est du coup sur des vins qui ne peuvent pas avoir de
goût de bouchon, se détériorer. Alors, pour terminer, Margot, c'est la sentence. C'est Florence qui a dégusté pas mal de vins de chez vous. Elle en a choisi un. Alors, Florence, est-ce qu'il est bon déjà ce vin?
Ah oui, alors là, je me suis régalée avec la cuvée.
Bonne nouvelle, Margot.
Un joli nom aussi. Scélérata âme noire. C'est 2016, ça. Donc Côte du Roussillon, village Les Aspres, avec du Mourvèdre, du Carignan, de la Syrah, Grenache noire. Donc, écoutez, j'ai bien apprécié cette belle robe rubis profonde et brillante. Le nez était intense sur des notes épicées, comme un peu la cannelle, la girofle, quelques fruits rouges mûrs aussi. Et on sentait quelques notes subtiles d'élevage, comme la vanille. C'était très léger, hein. Pas du tout gênant. L'attaque en bouche est franche. Voilà un caractère bien trempé. On retrouve les fruits rouges mûrs. C'est une bouche gourmande, savoureuse, puissante. Les tanins sont présents, mais pas du tout assez chants. Et la finale est longue sur des légères notes de pruneau à l'eau de vie et quelques notes de réglisse aussi. Vraiment un très joli vin gourmand et complexe à ne pas mettre entre toutes les mains.
Il peut se garder, Florence, c'est pas si long.
Ah oui, on est jusqu'à 7 ans.
Et pour terminer, donc le prix, ça coûte une bouteille
20€.
Super, merci Florence, merci Margot, bravo. Merci. Une vidéo sur Radio Retrouve. Le Playboy de l'émission, Jean-Manuel Simon, qui est journaliste et membre du comité de dégustation de l'RVF. Bonjour Jean-Manuel.
Bonjour Alain.
Bon, alors on parle un peu de bio. Pierre, là, c'est votre sujet passionnant. Allez-y.
Alors, la question qui se pose, c'est de savoir si le vin bio ou en biodynamie a un goût différent des autres vins. Déjà, en préambule, je voudrais dire que le talent des vignerons primeront de toute façon. Le bio ou la biodynamie, ça n'est qu'une méthode, ce n'est pas une fin en soi, c'est pas une finalité. Et le talent primera toujours sur la méthode. Donc il vaudra mieux dans l'absolu, à mon sens, se régaler du vin d'un très grand vigneron qui travaillera en conventionnel, plutôt que du vin d'un vigneron médiocre qui sera certifié bio, plutôt par opportunisme ou par idéal marketing.
Quelques noms peut-être ?
Non,
non.
On ne parlera que des bons vignerons. Voilà, donc en fait, la question qui se pose, c'est que lorsque vous dégustez un vin, est-ce qu'il y a un goût particulier d'un vin bio ? Moi, je dis non aux gens qui me posent la question. On ne peut définir le goût qui proviendra d'un vin bio que par comparaison. Si vous ouvrez deux vins d'une même appellation, l'un provenant d'un vigneron qui travaille en bio, en biodynamie, et l'autre en conventionnel, là, vous pourrez peut-être trouver une différence. Laquelle moi, on goûte à la Revue du vin de France des milliers de vins par an, souvent à l'aveugle, hein, parfois 100, 150 vins à l'aveugle dans la journée. Et parfois, les vins qu'on met en avant, qu'on ressort, qui nous plaisent le plus, eh bien, ce sont des vins issus de l'agriculture biologique ou en biodynamie, parce que ce sont des vins qui souvent ont des caractéristiques gustatives bien particulières, bien différentes. Je, à titre personnel, et je ne suis pas le seul, je leur trouve souvent plus de pureté, de saveur, plus d'intensité, donc plus de persistance aussi, hein, une longueur en bouche, beaucoup plus d'allonge, et puis une forme de transparence de saveur. Alors qu'est-ce que ça veut dire, la transparence de saveur ? Pas grand-chose, mais ce sont des vins qui sont plus digestes, c'est-à-dire que souvent, l'alcool est plus intégré, on le perçoit moins, on peut avoir des vins à 14 ou 15 d'alcool qui seront beaucoup plus digestes et faciles à boire que des vins qui ne seront pas en bio, qui n'auront que 13 degrés d'alcool. Et puis l'acidité aussi est plus intégrée, et souvent plus mûre. Il y a une idée
et ça pour les blancs, pour les rouges, pour les rosés, toutes
les vins
confondues.
Toutes catégories confondues, même les champagnes. L'idée c'est vraiment, voilà, quand vous travaillez en bio ou en biodynamie, bah, vous cherchez à avoir la meilleure origine possible, la meilleure qualité possible de raisin, qui va retranscrire autant que possible le goût du lieu dont ils proviennent. Donc quand on s'attache à travailler suivant ces méthodes, eh bien ça va se retrouver dans le vin. Mais encore une fois, ça ne peut se percevoir, à mon sens, que par comparaison. C'est-à-dire que si on goûte deux vins produits de deux méthodes différentes. Il y a des exemples.
Et sur la même parcelle.
Et sur une même parcelle. Il y a un exemple comme ça qui est très... Enfin, moi, qui m'a marqué, c'était Anne-Claude Le Fleuve, paix à son âme, hein, du célèbre domaine Le Fleuve en Bourgogne. Avant de convertir le domaine à la biodynamie, elle a mené une expérience sur une seule parcelle, qui était de la parcelle de Clavoyon, premier cru à Puligny. Elle avait 4 hectares, donc elle pouvait expérimenter. Elle divisait la parcelle en deux, et pendant 5 ou 6 ans, il y a une partie qui a été travaillée en conventionnel, avec les traitements chimiques, les herbicides qu'elle utilisait à l'époque, et l'autre partie a été travaillée en biodynamie. Et tout ça a été mis en bouteille. Et on a vu, lorsqu'on a pu déguster les vins sur 6 ou 7 ans, eh bien, on voyait bien que la parcelle travaillait en biodynamie. Les vins gagnaient en pureté, en allonge, en précision, en finesse de saveur, en transparence. Il y avait plus d'éclat, il y avait plus de lumière dans les vins. Et le vin, évidemment, était meilleur. Et c'est cette expérience-là qui l'a convaincu de
passer de convertir son David Cabold.
Alors, sans parler de ce cas particulier, qui est particulier, est-ce que, d'une manière générale, vous ne croyez pas qu'un des principes actifs le plus important, c'est que pour pratiquer ces techniques agronomiques, que la chose la plus importante, c'est le temps passé dans la vigne à faire le travail, parce qu'il faut être plus actif dans la vigne, il faut être plus réactif, il faut même être proactif. On l'a vu en 2018, lorsqu'il y avait beaucoup de pluie et beaucoup de gens en biodynamie ou bio ont perdu leur récolte une bonne partie. Et les gens qui ne l'ont pas fait, c'est parce qu'ils bossaient le week-end, parce qu'il faut aller traiter plus souvent. Est-ce que le principe de l'observation de la nature n'est pas le principe le plus important
si,
dans tout ça?
Tout à fait, je suis parfaitement d'accord avec ça. On ne peut faire des grands vins qu'à force d'observation, de réactivité, de soins infimes de tous les instants. C'est ça qui prime, de toute façon, bien sûr.
Alors, donc, ça veut dire qu'au niveau du goût, meilleur, pas moins bon, différent, on peut le trouver.
Moi, je pense que c'est souvent meilleur. Enfin, mes plus grandes expériences de dégustateur.
Vos meilleurs souvenirs étaient.
Mes plus grands goûts de cœur, ça a souvent été des vins en bio ou en biodynamie. On peut parler de Pontécanet aussi, hein, un château 5e cru classé de Pauillac, qui faisait des vins jusqu'au début des années 2000 qui étaient corrects. Hein. C'était pas des mauvais vins, mais c'était pas non plus. Ça s'est jamais particulièrement illustré. Et le domaine est passé en biodynamie, et en quelques années, véritablement,
il a explosé.
Aujourd'hui, tous ceux qui l'ont goûté sont d'accord pour dire que la qualité est quasiment équivalente.
Allez, on réagit
si on peut se le payer, parce qu'il y a eu quand même un effet énorme
ça coûte plus cher à cause de la main-d'œuvre aussi.
Il n'y a pas que ça dans Pontécanet. Hein.
Disons qu'en pourcentage d'augmentation, quand même.
En général.
C'est normal que ça coûte plus cher.
Bien sûr.
Il y a une prise de risque.
Mais que ça soit multiplié par 5 ou 6.
Comme 2018, par exemple, ça a été compliqué.
On perd beaucoup en rendement.
Exactement. Il y a deux domaines qui ne le revendiquent pas, mais qui le font. Enfin, Palmer, par exemple.
Oui, ils sont de plus en plus nombreux, bien sûr.
Dans la vallée du Rhône, des gens comme Beaucastel, par exemple. La Romanée Conti le dit.
Donc, à suivre. Merci, Jean-Manuel. Merci à tous. On se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas, place de la Madeleine à Paris, avec le Vino Quiz pour gagner des très jolis cadeaux. Puis après, direction les Rancios, beau sujet. Puis on finira où ? Dans le Jura.
Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Retour à la cave, Nicolas Paris, place de la Madeleine, pour cette émission en public et délocalisée avec Florence Corbalan et puis le Vino Quiz, Florence.
Je vous rappelle le principe du Vino Quiz. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un très beau cadeau, à savoir un abonnement d'un an à la Revue du Vin de France. Voici la question de ce week-end. Quel était le nom de notre invitée téléphonique, la vigneronne du domaine Sol Perret? Réponse A, Camille Sol. Réponse B, Margot Sol. Réponse D, Margot Fadièse Mineur. Pour répondre et gagner,
il y a de la recherche là.
Un abonnement d'un an à la Revue du Vin de France. Rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm, rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
Merci Florence Bémol. Invino Sud Radio retrouve David Cobold, le cofondateur de l'Académie du Vin de Paris, pour nous parler de Rancio. Mais Rancio, on est en France?
On va être en France et ailleurs. Alors, on va partir de l'exemple de France et puis dans un pays qui vous est cher, Alain Marty, la Catalogne, parce qu'il y a une catégorie de vins Rancio en Catalogne qui ne sont pas dans le sujet que j'ai traité la dernière émission, les vins doux naturels, parce qu'ils sont ni doux, ils sont naturels, oui, mais ils ne sont pas doux. Alors, ils sont secs en général, même si on peut avoir des catégories Rancio qui sont des doux et des demi-secs.
Qu'est-ce que vous dites, Philippe Arbac, vous avez parlé, non?
Non, mais il y a toute la gamme, effectivement.
Il y a toute la gamme.
Le précise.
Alors, Rancio, ça veut dire rance. Alors, ça ne donne pas très envie. Ah, non, on dit un vin rance, c'est le beurre rance, tout ça. Au fait, c'est des vins oxydatifs. Alors, exemple, Philippe va en parler, après moi, des vins jaunes, d'une catégorie de vins jaunes. On trouve ces vins-là aussi à Xérès. Les finaux de Xérès ou les Manzanilla sont des vins Rancio, c'est-à-dire que l'oxydation est rentrée dans le vin, parfois protégée pour des effets excessifs.
Donc c'est pas un défaut, c'est normal et c'est volontaire.
C'est une évolution naturelle d'un vin qui n'est pas protégé. On nouille pas la barrique, on le laisse vider
Bouillé,
un peu. C'est remplir la barrique pour compenser l'évaporation. Hein. C'est la part des anges. Les anges, on sait bien, ils sont tous bourrés parce qu'ils ont une part tout le temps.
Avec modération,
donc,
les anges.
Donc, pour éviter l'oxygène de rentrer de manière excessive, on remplit pour être sûr que le niveau soit plein et qu'il n'y a pas d'oxygène qui rentre.
D'accord.
Si on laisse l'oxygène rentrer, il y a une espèce de plan B fournie par la nature, qui est une voile de levure qui se forme sur la surface, qui sert de tampon contre l'oxygène. Donc, il y a une altération du goût, une rancification ou une oxydation du vin. Et pour parler du cas spécifique des rancios en Catalogne, en Roussillon, c'est une catégorie que les gens buvaient entre eux ou utilisaient pour la cuisine pendant très longtemps. C'est-à-dire que le vin avait gâté, quoi, et n'était pas commercial, et on le gardait pour soi. Mais on s'est rendu compte qu'en gardant ces barriques en vidange protégées par cette voile de levure, c'est une voile, une flore, hein, c'est une voile naturelle qui se forme, et ben ce vin pouvait vieillir très très longtemps et être absolument extraordinaire.
Simplement, et on l'associe à quoi, David ? Il y a des plats qui vont avec ou
alors de... Ça dépend des goûts. Moi, je suis élevé sur ces vins-là parce que l'apéritif maison en Angleterre, c'est de Finot Xerès.
Oui.
Donc, on avait ça à l'apéro. Hein. C'est, mon père avait soit un Finot, soit un Amontillo, soit les deux, et on choisissait. Donc, j'aime ce goût-là. Ça donne un goût très particulier de noix, de foin. Quand on le sert, la plupart des gens qui sont ni anglais, ni catalans, ni des dans le Jura, ils disent que c'est dégueulasse, que c'est pas un vin. Mais ce sont des vins formidables. Et les Catalans y croient beaucoup parce que ça commence à avoir une petite mode à New York. New York qui fait un certain nombre de modes en matière de vin comme d'autres choses. Et ils y croient beaucoup. Donc je pense qu'on va avoir de plus en plus, j'en ai goûté un récemment produit par Cristal et Olivier Saperas, vin de la Côte Vermeille, parce qu'il n'y a pas d'appellation pour ces vins-là. C'est des vins de pays. Hein. Ils n'ont pas encore statifié dans les AOP ou AOC en Catalogne ou ailleurs.
Donc ils sont en IGP, quoi.
Ils sont en IGP, donc vin de pays de la Côte Vermeille. Je trouvais ce vin formidable, fait avec du grenache gris et blanc. C'était riche, c'était complexe, c'était long. Moi, j'adore ces vins. Alors, pour répondre à votre question, je dirais que les accords... C'est sur les tapas et même des tapas à goût fort, par exemple l'anchois ou des pâtes d'anchois, des tapenades, des trucs comme ça qui vous arrachent la gueule. Ou comment, moi, j'adore ça, mais c'est quand
des
même fort.
Du fromage très sec.
Ouais, ouais, c'est ça. Des fromages un peu pourris, quoi. Vraiment des costauds. Et ça, c'est magnifique. Mais ces vins, c'est un autre monde. Vous partez ailleurs. Et des plats épicés, parce que ça marche avec des plats épicés, ces vins-là. Donc, les rancios, ou eux, ils appellent leur vin ranfio avec un F, c'est une petite
subtilité.
Ces vins-là, ou les vins jaunes, ou les Xerès, c'est de la même famille. Et on trouve ce type de vin aussi à Tokaj, dans les Chemerodny, par exemple, qui sont peuvent être des secs ou des demi-secs, voire des doux.
Combien ça peut coûter une bouteille, David, à peu près?
Alors, combien ça coûte? Ça coûte pas très cher. J'ai pas le prix de ce vin, mais je crois que c'était dans les 15 euros.
Dans les 15 euros, quoi.
Ouais.
Si je peux ajouter une chose rapidement,
bien
ce
sûr,
qui est formidable avec ces vins-là, c'est qu'une fois qu'on a ouvert la bouteille chez soi, on peut la conserver pendant des mois.
Ça alors, ça, c'est très bien aussi. C'est très important,
votre remarque.
Exactement. C'est sur le plan pratique, c'est extraordinaire.
Et s'en servir pour la cuisine.
Cela dit, les finaux.
Aussi.
Les finaux de Xerès, il vaut mieux les boire jeunes et frais et pas les ouvrir, pas les laisser
pas
ouvrir
laisser trop longtemps, vous dites.
Par contre, les plus oxydatifs, les amontillados, ça, on peut les garder.
Merci beaucoup, Invino. Sud Radio retrouve maintenant Philippe Forbrack, ancien, nouveau et futur président de la Sommellerie française, pour nous parler de cette belle région, le Jura. C'est beau, le Jura. Hein.
C'est très beau, c'est très typique.
Ils sont sympas, les Jurassiens.
Oui, on y mange bien, on est plutôt bien accueillis. Il fait relativement frais, c'est pas du tout en repos, c'est une constatation.
Je suis passé à Pontalier récemment à moto.
Il fait froid.
En allant en Suisse, je me suis rendu compte pourquoi on disait que c'était la ville la plus froide. Les chênes, il y a un mois, les chênes n'avaient pas une feuille dessus.
Ah, carrément, quoi.
Ah oui. Jure.
Bon, d'accord.
Et Arbois, c'est une très jolie ville.
Le village de Mout, c'est la petite Sibérie de la France.
On bat les records de froid en hiver.
Ils ont trouvé
un mammouth il n'y a pas longtemps.
Les gens sont souvent chaleureux, ils reçoivent bien chez eux, bien au chaud. Il y a des cheminées fantastiques. On fait des charcuteries fumées parce qu'il y a tellement des cheminées, etc.
Naturellement, le chapeau est fumé.
On y produit des jolis fromages qui mûrissent relativement longtemps, le comté en tête, mais d'autres aussi. Et puis on y produit des vins depuis aussi très longtemps. On est dans une zone frontalière, on n'est pas loin de la Bourgogne. Il y a pas mal de Bourguignons qui sont venus d'ailleurs acheter quelques vignobles dans le Jura il n'y a pas très longtemps.
Et puis
la Suisse à proximité, l'Alsace finalement qui est juste un peu au nord, la Savoie légèrement plus au sud. Donc c'est une zone tampon entre différentes régions, différentes influences. Et les gens affirment leur identité locale à travers le caractère déjà des personnages, de leur gastronomie, mais également de leur vin. parmi lesquels le plus emblématique, qui est connu depuis très très longtemps, qui est le fameux vin jaune. Et parmi les terroirs les plus célèbres, c'est un tout petit terroir situé au pied d'une falaise juste extraordinaire. Si vous y vous baladez, vous allez voir ces marnes bleues, ces rochers qui dépassent, et ce village perché avec ses hautes maisons de vignerons que le village de Château-Chalon. 50 hectares de vignes d'un cépage qui s'appelle le Savagnin, dont le nom viendrait du côté sauvage, Savagnin, sauvage, salvanien. Et c'est une variété ancienne de Traminère, qui est un cépage dont on peut sûrement évoquer l'existence dans le nord de l'Italie, puisqu'il y a une ville qui s'appelle Tramine, qui aussi est connue un peu en Alsace, notamment du côté d'Heiligenstein, où le Klevener d'Heiligenstein est élaboré avec ce cépage-là. Et puis, on connaît bien sûr la version un peu plus contemporaine, plus fruitée et plus épicée que le Gewürztraminer, mais qui est du coup différent du Traminer, qui est un peu plus neutre en termes de goût.
Il y a beaucoup
et qui
en
se
Suisse
révèle
aussi.
Exactement à la Suisse voisine.
Avec différents synonymes.
C'est compliqué de suivre le cheminement. En tout cas, les Jurassiens sont fiers de leur Savagnin. Et le Château Chalon, effectivement, est la vedette de ces vins-là. Alors, David a déjà pas mal, pas dévoilé, mais évoqué la façon dont produit ce fameux vin jaune du Jura.
Dévoilé, tu fais exprès. Hein.
Exactement, oui. C'est le thème qui conviendrait. Mais ça, on le dévoile seulement après 6 ans et 3 mois, c'est obligatoire. Dans le premier temps, on le voile religieusement, parce que ce sont les abbesses, d'ailleurs, de Château Chalon, dans le secteur de Voiteur, de Névis-sur-Seille, Domblanc, etc., qui sont les communes qui voisinent.
C'est une histoire de bonne sœur défroquée.
Alors,
le voile
des amis de Florence Corbalan.
Le voile des abbesses. On dit d'ailleurs qu'à Château-Chalon, il y avait effectivement cette abbaye réservée aux dames et plutôt de la noblesse, comme souvent à cette époque. Et que ce sont elles qui, effectivement, ont adopté le Savagnin, ont fait cultiver ce cépage, effectivement, sur les pentes un peu abruptes, d'ailleurs, de Château-Chalon. Donc, on élabore ce vin avec ce cépage uniquement, qui est souvent ramassé assez tardivement. C'est le cépage dans le Jura qui est ramassé le plus tard. C'est pas une vendange tardive, c'est juste un cépage qui est vendangé tardivement. Et d'ailleurs, quand on le ramasse, il a cette couleur bronze particulière qui déjà évoque la couleur de ce côté jaune or que l'on va retrouver ensuite dans le vin final. Donc, on fait un vin sec de base que l'on entonne dans des fûts, donc. Dans la mesure du possible, précédemment utilisé pour le vin jaune, pour qu'il y ait déjà ces ferments naturels sur place. Alors, comment c'est né un jour, la nature est là, les anges sont passés aussi par là. Mais en tout cas, ou alors le hasard de vinification et des développements bactériens, parce que finalement c'était ça, et se développe après un certain temps, puisqu'on ne houille pas, c'est-à-dire qu'on laisse descendre le niveau
d'oxygénation. Houiller, alors expliquez-nous ce que c'est houiller.
Louillage, mais c'est... Alain Mathé, on vous explique depuis 10 ans louillage, bah, et vous n'avez toujours pas compris.
De nouveaux 15. Auditeurs.
Voilà, exactement. Auditeurs. Et chaque jour...
On passe par le trou de bonde.
Le trou de bonde,
c'est donc le trou qui est sur la partie supérieure d'un tonneau.
Très bien.
Qui tient dans le sens qui convient. Et ça s'appelle houiller, parce que c'est l'endroit où on met l'œil, finalement, pour regarder à l'intérieur du tonneau. Et donc, houiller, ça vient de œil.
Œil, d'accord, très bien.
Et puis, c'est une forme ronde.
Donc, il faut avoir le coup d'œil dans le trou de bande avant de savoir s'il faut houiller ou pas.
C'est très simple, laisser faire la part des anges, redescendre le niveau et laisser se développer ce fameux voile microbien à la surface qui va protéger le vin en lui conférant effectivement ce goût de jaune particulier qu'on évoque souvent, qui rappelle la noix, la noisette, l'amande, mais aussi parfois l'agrume, la pomme, des arômes aussi épicés, des arômes de curry, par exemple, qui sont assez présents, et poivré aussi, le poivre blanc notamment, selon les années, les producteurs, ou les différents terroirs. Là, c'est plutôt Château-Chalon dont on parle.
Et il y a différents vignerons ou pas, alors ?
Alors, bien sûr, il y a plein de vignerons, heureusement. Alors, juste un petit mot en préambule sur la façon dont on goûte ce vin jaune. D'abord, ce n'est pas un vin qu'on sert frais, mais plutôt à température ambiante. Et ça, c'est important. Mais autour de 14 va bien, mais même un peu plus haut, parce que la texture, la densité du vin est assez incroyable. En plus, ensuite, c'est un vin qu'il ne faut pas servir nécessairement à des non-initiés. Il faut leur expliquer un peu d'où ça vient, comment ça goûte. Au nez, on a plutôt l'impression d'avoir un vin qui va être avec un sucre résiduel, parce que c'est très, très marqué par le côté confit, presque, et des arômes de fruits secs et tout. Et en bouche, c'est d'une vivacité un peu déroutante. Et c'est extrêmement long en bouche. Ça va très bien avec des plats style mori, un peu des sauces un peu crémées, de la volaille.
Deux, trois vignerons de... Voilà.
Et ensuite, si vous voulez vous faire plaisir, allez à la rencontre de gens comme Jean Macle, par exemple. Jean-Marie Courbet, Boudry, Beau, Pierre Butin ou d'autres. Ça vaut vraiment la peine. Le village est à découvrir. Les vins sont extraordinaires. C'est pas donné, hein. Ça coûte entre 30 et 50 euros la bouteille, mais ça se conserve presque éternellement.
Merci beaucoup Philippe, merci également vous Florence, Jean-Manuel et puis David, de fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.fm ou sur votre page Facebook Invino. On se retrouve demain à 12h30 précise pour une nouvelle émission, toujours en public et délocalisée chez Nicolas, le caviste fondé en 1822. Au menu, on parlera des vins coup de cœur pour ce mois de juillet, l'appellation Hermitage dans la vallée du Rhône, l'association Women Do Wine et une réflexion sur les vins un peu âgés. D'ici là, c'est parti. Bon déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio et surtout, n'oubliez jamais, respectez la plus grande des modérations.
Sud Radio, Invino.